prix du pétrole en bourse, niveau technique pivot à 65$ sur le brut US. Alors que l'OPEP, chers amis, a décidé d'interrompre sa politique de réduction de la production, l'OPEP, à partir de ce mois de mai, réaugmente sa production. Revirement stratégique, niveau technique, pivot à 65$, point complet sur le prix du pétrole en bourse. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex. Vous savez que je couvre chaque semaine les grandes tendances sur le marché des changes et sur le marché des matières premières. Cette semaine, je vous parle du pétrole parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé du pétrole, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le plan fondamental et sur le plan technique, et parce que j'ai envie, cette fois-ci, d'essayer de vous proposer une vidéo courte. Alors au passage, j'en profite, petit sondage. Bon, j'irai lire les commentaires. De manière générale, dans mes structures de vidéos, qu'il s'agisse du Top Gun ou du Fast and Forex, le Top Gun publié le lundi et le Fast and Forex publié le mercredi, qu'est-ce que vous préférez en fait comme format? Le format long, alors le format long c'est rarement plus de 30 minutes, le format court 20 minutes, 25 minutes, je sais que chacun peut avoir des avis différents sur ce sujet, là je vais essayer de faire un format court sur ce Fast and Forex. Et oui, il faut varier les plaisirs. Alors, pétrole, revirement pour certains stratégiques de l'OPEP. En tout cas, les pays producteurs rassemblés au sein de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, alors ça représente à peu près 25-30% de l'offre mondiale de pétrole. Si vous tenez compte de la Russie et des pays associés, l'OPEP+, on est plus autour de 40%. Depuis maintenant 3 ans, en fait, depuis 2022, l'OPEP réduisait sa production pour soutenir à la hausse le prix du pétrole. La tendance du prix du pétrole en bourse, elle est baissière depuis maintenant plus de 3 ans. Mais oui, les amis. Baissière depuis 3 ans, et de manière étonnante, surtout l'Arabie Saoudite, mais pour des raisons bien identifiées, à partir de ce mois de mai, la production de pétrole de l'OPEP va réaugmenter, pouvant créer une situation de marché excédentaire, et clairement, ça ne va pas aider à soutenir le prix du pétrole, à moins que acheter la rumeur, vendre la nouvelle, et puis sans oublier tous les autres facteurs fondamentaux d'influence sur le prix du pétrole, in fine, l'analyse technique sera juge de paix, le niveau des 65$, je vais reprendre tout avec vous. Donc, je vous donne le plan. Première partie, on commence par un gros point technique, multi-outils, multi-horizons de temps sur le prix du pétrole. Vous allez voir le rôle pivot des 65$. Je vais vous parler de l'analyse chartiste, de l'analyse en vague d'Elliott, du système Ishimoku, du positionnement institutionnel, des traders institutionnels sur le prix du pétrole, mais aussi de la market, de la term structure, le message des contrats futurs sur le marché du pétrole, et vous allez voir que cela est vraiment intéressant à un moment où justement donc l'OPEP fait ce choix, c'est un revirement stratégique, oui en soi, c'est la modification d'une politique de réduction de l'offre qui était active, qui n'a pas vraiment fonctionné, disons que la réduction de production de l'OPEP a permis de freiner la tendance baissière du prix du pétrole. En sera-t-il maintenant alors que cette production va réaugmenter? Deuxième partie, donc première partie, la partie technique. Seconde partie, seconde vague d'inflation, je la cherche toujours. D'ailleurs, le pétrole, quand le pétrole parle, il faut l'écouter. Et le pétrole a toujours eu une opinion sur cette tendance à croire que la guerre commerciale allait relancer l'inflation à la hausse. Dernière mise à jour de l'inflation US, la semaine dernière, l'indice des prix PCE, qui porte sur le mois d'avril, donc déjà une période concernée par les tarifs douaniers. Le PCE, c'est pas du flan. Le PCE est basé sur les données comptables des entreprises. Le Sud, eh oui, la désinflation se poursuit aux États-Unis. Le PCE nominal est à 2,1%, le PCE sous-jacent 2,5%. Les tendances sont toujours à la baisse. Bref, non seulement il n'y a pas de seconde vague d'inflation, mais il n'y a même pas de rebond de l'inflation. Il n'y a même pas de mise à plat de l'inflation. Les courbes, la désinflation se poursuit. Et le pétrole a toujours défendu cette poursuite de la désinflation. Alors les choses peuvent changer effectivement si on réintègre le niveau des 65$. Et encore, vous allez voir, la base de départ en juin est favorable. Parce qu'en juin 2024, à partir du 4 juin 2024, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo-là, parce qu'à partir du 4 juin 2024, le pétrole repartait en pump à 90$. Donc la base de départ va être favorable. Mais je vous parle donc ça et je vais en profiter pour vous rappeler quel est le poids direct et indirect du pétrole dans le calcul de l'inflation. Troisième partie, forcément, donc c'était une partie utile de cette vidéo, revirement stratégie de l'OPEP. L'OPEP l'a annoncé le week-end dernier. L'OPEP l'a annoncé, je crois, samedi ou dimanche, à partir donc de ce mois de mai. Et la production de pétrole va augmenter chaque mois de 400 000 barils par jour. C'est pas rien, hein. Vous savez, grosso modo, la production de pétrole dans le monde, c'est, j'arrondis, hein, c'est 100 millions de barils par jour. L'OPEP doit en faire 27-28 millions, les États-Unis 22 millions de barils par jour. Les États-Unis, c'est quasiment comme l'OPEP. Ça montre à quel point les États-Unis sont de loin le premier producteur mondial de pétrole. Donc, je vous explique un peu en quoi l'OPEP modifie une politique en place depuis 3 ans. Et quatrième partie, un petit bilan rapide des facteurs haussiers et baissiers conjoncturels du moment. Entre la géopolitique, entre l'aspect commercial, tout ça peut agir sur les perspectives de la demande, mais aussi contraindre l'offre. C'est important d'avoir ça en tête, ce qui fait que ce marché du pétrole, fondamentalement, reste quand même un marché compliqué à suivre. Et donc, je vais vous rappeler les différents facteurs fondamentaux, mais nous commençons sans plus tarder par la grosse partie analyse technique du prix du pétrole. Pétrole revirement de l'OPEP et niveau technique pivot à 65$. Je déclare la session du Fast and Forex de ce 4 juin ouverte. Alors, dans cette vidéo, le plan, je vous l'ai donné à l'oral à l'instant. Je remets ici les choses à l'écrit pour ceux que ça intéresse de lire. Il y aura donc une partie technique, une partie sur le fait que le pétrole dit non à une seconde vague d'inflation. La troisième partie sur le revirement de l'OPEP et bien sûr quelques éléments techniques, quelques éléments conjoncturels fondamentaux, à la fois haussiers et baissiers, qui se neutralisent. Et donc, première partie, sur le plan technique, le niveau pivot se situe à 65$ sur le prix du pétrole. Je vous propose de tout passer en revue. Alors tout d'abord, analyse chartiste et vague d'Elliott, la cible théorique de la vague C n'a pas été faite. Elle a été approchée, mais elle n'a pas été faite. Alors j'illustre tout de suite mon propos. Alors au passage, je suis ici sur le rapport mensuel de l'OPEP. C'est un document qui est publié chaque mois et qui vous donne énormément d'informations sur les fondamentaux. C'est très intéressant. Alors, où en sommes-nous? Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Vous avez sous les yeux un graphique qui expose donc à gauche les bougies japonaises. Je vais réduire un peu la voilà. Ça, on y voit plus clair. Vous avez à gauche un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du prix du pétrole. Donc, déjà, première observation visuelle, chers amis, le pétrole est en tendance baissière depuis 3 ans. Donc, et comme vous le constatez, la guerre commerciale qui a commencé donc au début du mois d'avril, ne s'est pas traduit par une envolée du prix du pétrole. Alors, à moins qu'une baisse de 72$ à 55 soit devenue une hausse, et donc que les mathématiques deviennent folles, si vous voulez, il n'y a pas de rebond du prix du pétrole. Alors, naturellement, oui, là, il stabilise, il y a un prix pivot à 65$, si rien intègre 65$, ça sera bullish, mais on va regarder ça ensemble. Et tout d'abord, sur le plan chartiste, de manière très basique, vous avez sous les yeux le contrat futur pétrole, le contrat continu sur le baril de pétrole brut américain. Bon. Avec un graphique qui expose donc les bougies japonaises en données hebdomadaires. Tout d'abord, ce niveau des 65$ est important. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, ce fut ici le point de départ de la baisse à l'époque du choc baissier lié à la crise sanitaire. Alors, au passage, si l'on regarde un peu l'impact des récessions du passé sur le prix du pétrole, et là je vous mets les deux dernières grandes récessions, celle de la crise financière de 2008, si vous aviez eu une récession, alors un ralentissement économique ici en 2014-2015, ou encore celle du Covid, on voit bien qu'il y a une corrélation assez nette, positive, donc positive, ça ne veut pas dire que ça monte, hein, ça veut dire que ça va dans le même sens, entre le prix du pétrole et la croissance économique. Bon. Et là, effectivement, depuis 3 ans, depuis 2022, le prix du pétrole est en tendance baissière. En grande partie, vous avez là l'explication de la désinflation. Bon. Alors, ce niveau des 65$, c'est un niveau pivot, puisque, comme vous le constatez ici, ce fut le point de départ du choc boursier de la crise sanitaire, la remontada, la crise inflationniste, contre lesquelles les banques centrales ont décidé de lutter, depuis une phase de baisse, un range, et donc le marché ici est sorti il y a plusieurs semaines par le bas en rebasculant sous ce niveau des 65$ qui reste un pivot important. Sur le plan de l'approche fractale, c'est assez net en fait, c'est assez propre. Je vous rappelle qu'un schéma fractal complet se décompose en 5 temps de hausse, puis ensuite une correction en ABC. Là, vous avez le schéma Iliotis classique. Et vous allez voir que le pétrole obéit bien à ses règles de base de l'analyse fractale. Avec 5 temps de hausse très nets, depuis le point bas ici et le pétrole négatif, souvenez-vous, sur l'échéance d'avril 2020, le pétrole avait été négatif, alors, l'économie était à l'arrêt, les supertankers étaient à l'arrêt, observaient les ports au loin, bon, bref. Depuis, le marché a proposé 5 temps de hausse très nets, et nous sommes dans une structure corrective en 3 temps, une grande vague A elle-même en 5 temps, une B qui a pris la forme d'un temps, nous sommes là dans la vague C. Alors, la vague C, sa target théorique, on fait rarement le 1 pour 1. C'est extrêmement rare le A égale C, mais ça peut arriver. Nous ne le ferons pas. Là, c'est mon opinion. En général, la vague C va représenter en fait une extension de l'amplitude de la A reportée au sommet de la B. Quelque chose entre 0,50 et 1. Alors, le 0,50 est fait. Vous avez ici le 0,618 qui a été quasiment fait. Et là, le 1 pour 1. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait que le prix du pétrole se soit approché ici du 61,8 fait qu'en soi, la vague C peut être terminée. Mais la cible plus usuelle, ce qu'on observe en fait de manière plus fréquente, c'est les statistiques qui parlent, hein, c'est qu'en général, une vague C va plutôt trouver son bottom entre le 0,61,8 et le 1. C'est-à-dire, je reporte cette jambe au point haut de la baie et je reporte un coefficient de cette jambe. Et donc, en général, une vague C va faire entre 0,61,8 et 1. Donc, d'un point de vue fractal, il manquerait encore un plus bas dans cette zone. Si vous regardez maintenant juste l'aspect chartiste, reporter l'amplitude du range. Là aussi, c'est quelque chose qui nous mènerait plus bas. Ça, ce sont des cibles théoriques. Mais si vous voulez, en soi, la C peut être déjà terminée. Alors, pas terminée, tout est possible. À quoi ça sert? Attendez. L'analyse technique regorge d'outils. L'analyse technique, c'est la combinaison des facteurs techniques, d'accord? Il n'y a pas un outil qui donne la réponse. Si un analyste vous dit « Mon outil vous donne la réponse, mon système vous donne la réponse », fuyez. Fuyez. Faites votre plus grand sprint. Donc, ça, c'est le message des vagues d'Eliot. D'un point de vue chartiste, c'est le niveau que nous avons vu tout à l'heure, c'est le niveau des 65$. Réintégrer 65$, rend probable qu'un bottom de vague C ait été fait. Et donc, un aboutissement d'un 5 temps, 3 temps, derrière, une nouvelle tendance de long terme peut démarrer. Nous n'en sommes pas là. Maintenant, observons d'autres approches pour essayer un peu d'affiner. Alors, nous allons regarder, bien sûr, le message du système Ishimoku, et vous allez voir que, là aussi, le message du système Ishimoku a été percutant sur le prix du pétrole. Je reviens ici sur mon graphique en données hebdomadaires. Je vais y ajouter les enseignements du système Ishimoku en données hebdomadaires. Là, pas de sujet, hein. Regardez ici, le marché avait basculé sous le tumeau. La tendance haussière avait été guidée par le nuage. On est passé baissier lorsqu'on est sorti par le bas du nuage. Là, le marché se maintient toujours en dessous. Mais le plus percutant en termes d'informations techniques fut le graphique mensuel. Ou regardez ça comme c'est propre. Nous sommes entrés dans le nuage en août 2024. Et là, c'était, regardez, on était dans cette énorme zone. Dès lors que, en août dernier, le marché est entré dans le nuage, en Ishimoku, on peut aller chercher la SSB, qui est à 45$. Ça ne veut pas dire qu'on ira, mais ça rendait... en entrant dans le nuage, le marché perdait le soutien du tumeau. Et ça ouvrait la voie à un décrochage dans ce ventre mou. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, rendons honneur à la fiabilité du système Ishimoku. Mais lui aussi, donc en mensuel, nous dit pas grand-chose, parce qu'on est dans une énorme phase latérale. En mensuel, le prix du pétrole, le système Ishimoku, bon, il nous dit que là, entre 45 et 90, on ne sait pas. Ce qui ne va pas nous aider à savoir si la vague C est terminée. Bon. Alors maintenant, on a quelques repères. On a tous compris que si on refranchit 65, eh bien la vague C a trouvé son bottom. Mais tant qu'on reste en dessous, qu'elle peut encore voir sa cible théorique être faite, Il va falloir qu'on creuse le sujet en allant chercher d'autres outils techniques, et notamment les outils de positionnement, les outils liés au marché à terme du pétrole. Alors, première chose intéressante, le positionnement institutionnel. Alors, attention, les données sont en retard. D'accord. Donc là, je vous donne des données, en fait, qui datent d'une semaine. Mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Hein. En fait, les données du rapport Commitment of Traders, elles sont mises à jour le vendredi, mais elles s'arrêtent au mardi d'avant. Donc là, nous sommes mercredi 4 juin, vous avez les données du rapport Cote publié vendredi dernier, mais qui s'arrête au mardi encore d'avant. C'est un fait. Mais par rapport aux données donc à notre disposition, la position nette institutionnelle reste dans une phase de baisse, pourtant dans un bas de range, mais elle a du mal à rebondir. Et ici, je vous ai fait une synthèse. La position nette sur le Brent, parce que quand on parle du pétrole, on parle du Brent qui est coté donc sur ICE et du WTI au NYMEX, hein, donc le pétrole de la mer du Nord. Et donc, on a conjointement une position nette institutionnelle qui reste baissière. Bon. Naturellement, que si on réintègre $65, si on réintègre à la hausse $65 et que les positions nettes se retournent à la hausse, vous aurez la certitude, si on réintègre $65, et que le positionnement net institutionnel se retourne à la hausse, c'est la certitude que le bottom de l'AC est fait et qu'on ira à 80. Mais tant qu'on est sous 65, il y a un risque. Et tout ça, c'est important. Pourquoi je vous parle de ça? Vous n'êtes pas obligé de trader le pétrole, mais tout ça est important. Je vous rappelle, le pétrole, c'est majeur dans l'inflation, à la fois directement et indirectement. Donc, même si vous ne tradez pas le pétrole, vous devez vous y intéresser. Parce qu'il dit beaucoup de choses. Quand le pétrole parle, il faut l'écouter. Pour son message global macro. Pour tout, les perspectives de politique monétaire, tout. C'est majeur. Pour ça que moi je le suis. Je traite pas le pétrole personnellement. J'ai jamais investi un copec là-dessus. Mais c'est dans le raisonnement de marché général, il faut tenir compte. Et puis techniquement parlant, il est propre. Alors, c'est vrai que l'OPEP réouvre les vannes. Il y a un surplus à part. Alors, le surplus est léger. Hein. Au passage, je vous rappelle donc la terme structure donc, qui va permettre. De comparer en fait qui compare le prix spot du pétrole aux différentes échéances des contrats à terme. Là, j'ai pris l'exemple du Brent où on a un très léger contango, c'est-à-dire des prix de contrats futurs supérieurs au prix spot qui montrent donc qu'il y a un marché excédentaire à court terme. C'est très léger, hein. C'est vraiment très léger, hein. Le spot doit être quelques centimes en dessous, mais tout de même, c'est quelque chose qui est important à suivre. Alors, la seconde vague d'inflation, cette fameuse seconde vague d'inflation. J'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui la souhaitent, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui souhaitent les choses négatives. Ça, c'est l'état d'esprit, hein, vous savez. C'est souvent, j'appellerais ça moi, l'ironie du dépressif, si vous voulez. Le dépressif a besoin de choses négatives. Et donc, effectivement, le dépressif veut une envolée de l'inflation pour que les taux remontent, pour casser le marché action, pour casser, pour créer du négatif. Vous savez, le négatif fait vendre. Et le négatif fait vendre. Le négatif est beaucoup plus lu, regardé, écouté que le positif. Je ne sais pas, ne demandez pas pourquoi, hein, ça relève de la psychologie humaine. Malheureusement, eh bien, l'inflation vient d'être mise à jour. Selon le PCE, au titre du mois d'avril, le PCE étant l'indice d'inflation favori de la Fed. Eh bien, bonne nouvelle, mais mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitent que tout s'effondre. Les amis, ça va au sud. Et là, on parle des chiffres d'avril, qui intègrent déjà un peu des tarifs douaniers. Bon, on verra en mai. En mai, ça devrait rebondir. Mais tout de même, c'est quelque chose qui a été publié vendredi dernier, il fallait que je vous en dise un mot. Et il y a un rôle direct du pétrole. Je vous ai remis ici dans ce tableau. J'enlève ma bouille. Je vous ai remis ici dans ce tableau, pour en attendre de regarder, l'impact à la fois direct et indirect du prix du pétrole dans l'indice des prix CPI et dans l'indice des prix PCE. Bon. Donc tout ça a un rôle majeur. Et si vous voulez, je disais tout à l'heure que quand le pétrole parle, il faut l'écouter. Tant que le pétrole un delta négatif tant que l'inflation pétrolière est négative. Donc vous comparez le prix du pétrole maintenant à ce qu'il était il y a un an. Et nous sommes le 4 juin. Je vais vous montrer ce qui s'est passé à partir du 4 juin 2024. Si le delta reste négatif, ça va maintenir l'inflation à niveau bas. En soi, c'est une bonne nouvelle. Pour les esprits optimistes comme le mien. Peut-être que je le suis trop. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, il est que il y a un vrai risque en cas de réintégration des 65 dollars. Regardez à partir du 4 juin 2024. Ah, c'était ici, c'était où? C'était là, voilà. À partir du 4 juin 2024, un énorme rebond du pétrole de 72 à 85. Ça veut dire qu'en juin, si le prix du pétrole se maintient sous 65 dollars et qu'on calcule un taux de variation entre ce qu'il faisait en juin 2024 et qu'on se maintient sous 65, le taux de variation va rester et sera de plus en plus négatif. Donc, ça va contribuer à maintenir l'inflation à un niveau bas en juin. Par contre, et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, en cas de réintégration des 65 dollars, en cas de retour dans le range, validant un bottom de C, remontant à 80 dollars, là, effectivement, ça va moins contribuer à la désinflation. En tout cas, pour le moment, les chiffres officiels disent non à la seconde vague d'inflation, et c'est aussi le message actuel du prix du pétrole, d'autant que Trueflation est toujours autour de la cible de la Fed. Même si Trueflation est très différent des mesures d'inflation que regarde la Fed, sa tendance est quand même importante à suivre. Car globalement, il y a une corrélation entre la tendance de Trueflation et le CPI et le PCE sur le long terme. Alors, revirement stratégique de l'OPEP, ça c'est important. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors tout d'abord, je vous rappelle une chose importante, c'est que depuis 3 ans, l'OPEP a tout fait pour freiner la baisse du prix du pétrole en abaissant régulièrement sa production. Vous avez ici les 12 membres de l'OPEP. Algérie, Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Iran, Irak, Koweït, Libye, Niger, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Venezuela. Et là, vous avez les membres associés, dont la Russie fait partie. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres? L'OPEP actuellement, c'est 26 millions de barils le jour. Là, rappelez-vous une chose. La production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils le jour. J'arrondis, c'est 105, 106. Mais avec l'OPEP+, c'est quasiment 40 millions de barils le jour. C'est 40% de la production mondiale. Les États-Unis sont à 22, 23 millions de barils le jour. Donc c'est quasiment... Mais quand on parle de l'OPEP, on parle de ces 12 pays. Et là vous avez l'OPEP+, les pays associés, dont la Russie. Donc, depuis 3 ans, l'OPEP baisse sa production. Mais en fait, c'était surtout l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, regardez, l'Arabie Saoudite, à elle seule, c'est quasiment 40% de l'OPEP. Hein. C'est 9 millions de barils le jour sur 26. Et l'Arabie Saoudite, elle en avait marre. Parce que certains pays ne jouaient pas le jeu. Par exemple, le Kazakhstan augmentait sa production. L'Iran augmentait sa production. L'Arabie Saoudite, elle en avait marre. Elle a perdu des parts de marché. C'était la seule à baisser sa production pour maintenir le prix élevé. Et bien, elle a dit, ok, stop. On réaugmente la production. Et donc, à partir de ce mois de mai, ça y est, tous les pays de l'OPEP réaugmentent la production pour récupérer des parts de marché. Récupérer des parts de marché aussi que le pétrole de schiste américain a pu prendre. Alors, ça augmente quand même moins que prévu. C'est pour ça que le pétrole ne baisse pas. Et puis, en fait, c'était largement intégré dans les cours. Mais tout de même, potentiellement, cela peut contribuer à un marché excédentaire. Alors, comment avoir la réponse? Ça va vraiment dépendre de ce positionnement du prix du pétrole, encore une fois, vis-à-vis de ce niveau des 65 dollars. Il y a autre chose, bien sûr. Vous savez qu'il y a la politique de drill baby drill de Donald Trump qui souhaite continuer d'augmenter significativement la production de pétrole aux États-Unis. La production de pétrole aux États-Unis, qui est déjà la première du monde. Les États-Unis produisent 22 millions de barils le jour. C'est 22% de la production mondiale. Trump envisage de la porter à 24-25 millions d'ici la fin de son mandat. Ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, lorsque vous écoutez les principaux producteurs de pétrole aux États-Unis, ils disent tous que ça va être très difficile. Pourtant, il faut forer, mais ça devient difficile d'augmenter davantage la production. Donc ça prend plus de temps. Mais effectivement, on a quand même donc un revirement de l'OPEP qui arrête de baisser sa production, qui la réaugmente. Vous avez la politique américaine qui veut absolument augmenter davantage sa production. Tout ça peut créer un marché excédentaire. Donc il faut croiser à la fois les deux aspects, l'aspect technique et l'aspect fondamental. Alors, si jamais le pétrole devait réintégrer à la hausse 65$ et remonter chercher cette trendline, par exemple, vous voyez, on réintègre à la hausse, on va chercher ça, c'est à peu près sûr. Par contre, tant qu'on est là-dessous, eh bien, ça reste bearish. Cela peut être dû à d'autres facteurs. Réintégrer 65$ peut être dû à des facteurs structurels ou conjoncturels. Structurels, j'en vois pas vraiment. Conjoncturels, je peux en voir. Et donc, les voici. Alors, voici ici quelques facteurs conjoncturels du moment qui agissent sur la tendance du prix du pétrole à court terme. Tout d'abord, bien sûr, la première chose, l'incertitude macroéconomique liée à la guerre commerciale. Vous avez ici, ça vient de Bloomberg Economics, le Global Trade Policy Uncertainty Index. Ça repart à la hausse. En fait, tant qu'il n'y a pas un appel téléphonique entre Trump et le président chinois, tant qu'il n'y a pas un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, tant qu'il n'y a pas un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, cela maintient une pression sur la demande de pétrole. Cela maintient l'incertitude économique. Et puis, bien sûr, vous avez tous les aspects géopolitiques du moment et la menace notamment qui existe au Proche-Orient et notamment potentielle frappe en Iran sur les structures nucléaires. Enfin, il y a énormément de tensions Iran, Israël, États-Unis. C'est quelque chose qui pourrait créer une contrainte d'offre. Bien sûr, la guerre en Ukraine. Donc, tout ça joue en permanence. Donc, en fait, selon moi, si le marché devait réintégrer à la hausse 65$ et rebondir vers 70-75, ce serait du court terme et lié à ces facteurs conjoncturels, notamment d'ordre géopolitique. Bien sûr, si on arrive à des accords commerciaux, ça va relancer l'optimisme économique et les perspectives de croissance, et ça peut aussi permettre au pétrole de remonter, mais pour la bonne raison. À nouveau, plus de perspectives de croissance économique. Voilà. La base de départ est favorable. Rappelez-vous, en juin 2024, je vous l'ai montré, le pétrole est remonté à 80$. Il est remonté même à 85. Donc, lorsqu'on va calculer en juin la contribution du pétrole au taux d'inflation, tant qu'on est sous 80-85, la contribution reste négative. En tout cas, ce sont aussi ici des facteurs qui jouent. Voilà, chers amis, eh bien, désolé, je n'ai pas tenu ma promesse, ma tentative, puisque la vidéo est encore trop longue. J'espère malgré tout que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses intéressantes. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.